Déjà, tu as l'obstacle, on va dire, purement technique. Donc, il faut apprendre le travail, apprendre les techniques, apprendre ce qu'il y a dans le studio, utiliser les machines et tout. Après, il y a l'obstacle, on va dire, culturel, parce que les Japonais, ils ont une façon de travailler qui est complètement différente de la nôtre. Ils ont une façon de se comporter en société qui est différente de la nôtre. Donc, il a fallu que j'apprenne tout ça, parce qu'on ne t'apprend pas ça à l'école, forcément. Et puis, il y avait l'obstacle linguistique aussi, parce que c'est pareil quand tu apprends le japonais à l'école ou quand tu parles en japonais avec tes amis, ben c'est pas pareil que quand tu parles japonais dans un univers, on va dire, professionnel.
Bonjour Grégory, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien.
Alors, on est en direct tous les deux un dimanche, mais avec 8 heures de décalage, puisqu'il est 10 h chez moi et 18 h chez moi, parce que tu es où?
À Tokyo.
À Tokyo, au Japon, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton travail, s'il te plaît?
Alors, j'ai deux casquettes. La première, c'est ingénieur du son. Donc, ça consiste à régler des problèmes qui sont liés au son, la prise de son, au mixage, mastering. Et donc, il y a une partie, on va dire, un peu technique où on place des micros, on utilise différents effets, des plugins, tout ça. Il y a une partie un peu artistique où on va plutôt essayer d'aller dans le sens de l'artiste, de créer une identité pour chaque titre. Et ma deuxième casquette, c'est plus chef d'entreprise. Donc, j'ai créé ma boîte il y a environ 3-4 ans. On est spécialisé dans justement on prodigue des services dans le son pour la musique, le web, la post-production, le cinéma. Et on fait aussi, je fais aussi management pour d'autres ingénieurs du son.
Ok, alors ma première question c'est comment est-ce qu'on devient ingénieur du son au Japon? C'est quoi un petit peu ton parcours ou plutôt même déjà ta formation en fait de base?
Alors moi, ma formation, c'est un peu le bazar. Donc, j'ai fait un bac littéraire, ça n'a rien à voir avec le son.
Effectivement.
Ouais. J'étais pas du tout scientifique à la base. J'aimais pas du tout les maths, la physique et compagnie. Mais je sais pas, ça m'est venu. Et j'aimais beaucoup la musique en général. Et bah, je me suis intéressé un peu à tout ça. Et j'ai fait, après mon bac, je suis allé à l'université, où je suis resté un an, ça ne m'a pas plu du tout. Et après, je me suis un peu
Et
formé tout seul, j'ai
excuse-moi,
fait plusieurs
t'as fait quoi
formations.
pendant ces 1 an à
Ouais.
l'université? Parce que comme tu dis justement, t'as fait des choses différentes.
Je faisais un DEUG de communication
D'accord.
à Paris 8. Voilà. Et donc j'ai arrêté. Ensuite, je me suis formé tout seul pendant 2 ans, on va dire. Entre-temps, j'ai aussi participé à la création du magazine Japan Vibes, je ne sais pas si tu as connu.
Oui, bien sûr.
J'étais dans la rédaction. À côté, je faisais de la musique, du son. Enfin, j'allais me former un peu sur tout ça en apprenant le japonais et tout. Et après, je suis parti au Japon où j'ai fait 1 an d'école de langue pour perfectionner mon japonais. Et après, j'ai fait une école spécialisée dans le son où j'ai eu un diplôme là-dedans. Et après, je suis allé dans mon studio et j'ai commencé à bosser.
D'accord. Alors, du coup, tu as été au Japon directement. C'est là-bas que tu as appris, en fait, que tu as été à l'école au Japon, une école de son?
Non, j'ai commencé un peu en France. Je suis allé dans une école qui s'appelle la SAE. À l'époque, c'était à Aubervilliers. Et j'ai fait une espèce de. Comment dire, une sorte de prépa, en fait, si tu veux. Avant, parce qu'il y avait deux, c'était divisé en deux morceaux. Il y avait un morceau où on t'apprenait un peu les bases, et un autre morceau où tu rentrais dans le vif du sujet. Mais j'ai décidé de faire la deuxième partie au Japon, parce que je regardais un peu les écoles et tout, et c'était largement plus développé en fait au Japon à cette époque-là. Et les prix étaient à peu près pareils. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire au Japon si ça coûte le même prix. En plus, ils ont plus de matériel. Les écoles sont aussi mélangées parce qu'il n'y a pas que des ingé-sons. y a aussi des musiciens, des chanteurs, etc. Alors qu'en France, c'est ingé son. Il n'y a pas vraiment d'école des musiciens, c'est plus un ancien conservatoire, c'est plus académique, on va dire, en France.
Ouais, tu trouves que t'as plus appris sur le tas, en fait, quelque part, de façon un petit peu plus empirique?
Alors oui, parce que déjà le métier veut ça. On va t'apprendre les bases techniques à l'école, mais c'est vrai que c'est sur le terrain que tu apprends vraiment le métier, quoi. C'est pas à l'école.
Ouais. Dans ton parcours, en fait, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à quel moment tu t'es dit, enfin, ou plutôt, est-ce que tu as eu des gros moments de doute avant justement de trouver ta voie? Parce que, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, tu as quand même un certain succès dans ton travail, tu as travaillé sur des très gros projets, tu as travaillé sur le film One Piece Red quand même, ce qui n'est pas rien, tu travailles avec des gros artistes japonais, il faut le dire, donc on peut dire que. Tu t'en sors plutôt bien, ça marche plutôt bien pour toi en ce moment au Japon. Qu'est-ce que t'en penses toi? D'ailleurs, par rapport à ta situation professionnelle, avant qu'on revienne dans le passé, tu te considères bien là, ça va bien?
Ouais, ça va bien. Après, bon, je suis indépendant, donc c'est pas comme si j'avais un patron avec un salaire fixe tous les mois. Donc, il faut toujours un peu batailler pour finir la fin du
Les fins
mois,
de
si tu
mois,
veux.
ouais.
Mais enfin, ouais, c'est pas facile, hein, parce que surtout dans notre milieu, les paiements sont souvent très très en retard. Ça prend 2, 3, 4 mois, parfois plus, pour être payé. Donc il faut avoir les nerfs bien, bien solides. Mais sinon, ça va.
Ouais. Et du coup, ma question, elle revenait donc à ta motivation, etc. C'est comment est-ce que tu as. À quel moment. Est-ce que tu as eu des grosses périodes de doute où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie qu'est-ce que je vais devenir parce qu'après avoir été en littéraire, après avoir fait de la com, etc. Enfin, y a des, et qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? Est-ce que ça a été une personne? Est-ce que c'était une rencontre? Est-ce que ça a été un événement? Qu'est-ce qui a été déclencheur et qui finalement a commencé à te mettre sur tes rails, sur les rails de la vie que tu mènes actuellement?
Comme tu dis, ouais, ça a été très très difficile, surtout parce que moi, comme j'étais étranger à la base, j'avais plusieurs obstacles sur mon chemin. Déjà, tu as l'obstacle, on va dire, purement technique, donc il faut apprendre le travail, apprendre les techniques, apprendre ce qu'il y a dans le studio, utiliser les machines et tout. Après, il y a l'obstacle, on va dire, culturel. Parce que les Japonais, ils ont une façon de travailler qui est complètement différente de la nôtre. Ils ont une façon de se comporter en société qui est différente de la nôtre. Donc il a fallu que j'apprenne tout ça parce qu'on t'apprend pas ça à l'école, forcément. Et puis il y avait l'obstacle linguistique aussi, parce que c'est pareil quand t'apprends le japonais à l'école ou quand tu parles en japonais avec tes amis, bah, c'est pas pareil que quand tu parles japonais dans un univers, on va dire, professionnel. En plus, dans la musique, il y a plein de gens un peu différents. Il y en a qui parlent des dialectes et tout, de Osaka et tout ça. Des fois, tu comprends rien. Donc, ça a été très, très difficile. Aussi, on a des horaires. Moi, je suis un peu de la vieille école. Donc, c'était avant qu'ils fassent des lois. Maintenant, il y a des lois où ils protègent un peu les salariés. Avant, il n'y avait rien du tout. Donc, on pouvait faire des journées de 48 heures sans rentrer chez toi, sans prendre ton bain. Même arriver de rester au studio pendant une semaine sans rentrer chez moi. Donc physiquement, mentalement, psychologiquement, c'était très 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 difficile. Mais ce qui m'a permis de continuer, ben c'est la passion. Plusieurs fois, je me suis dit, non, je vais arrêter, j'en peux plus, je suis fatigué. Mais je sais pas, à chaque fois, il s'est passé un truc. C'était souvent des sessions en fait, des enregistrements. Des petits trucs comme ça dans la vie quotidienne où des fois tu rencontres des artistes où tu te retrouves dans un projet et il se passe un truc un peu magique et ça te pousse à pas arrêter en fait. Moi ça m'est arrivé ça plusieurs fois ou bien tu rencontres des gens qui vont te pousser. Moi j'ai eu des mentors, j'ai eu des gens qui m'ont poussé, mis un peu sur les rails, et puis ça m'a permis de sortir en fait de la première période assistant où tu es vraiment en bas de l'échelle où tu fais un peu tous les trucs un peu ingrats. à la deuxième phase où j'étais plus à gestion, on va dire, la personne au centre du disque. Et après, j'étais indépendant. Donc, la première motivation, déjà, ça a été on va dire, déjà d'apprendre le travail. Et puis aussi un peu la rage. Moi, je suis quelqu'un de très. Comment dire? J'aime pas perdre. Je déteste perdre. Je déteste rentrer chez moi en ayant perdu. Donc, je voulais absolument prouver aux autres que je pouvais le faire. Malgré qu'on me dise non, tu vas pas le faire parce que tu es étranger, non, tu vas pas le faire parce que tu es ceci, tu es cela. Il y avait ça. Et puis après, la deuxième partie qui m'a poussé, ben, c'était mon employeur qui disait que j'arriverais jamais à être un mixeur professionnel, etc. Il avait déjà des gens et puis je voulais lui prouver que non, je pouvais le faire, etc. Et après, c'est la troisième motivation, ça a été plutôt financière, parce que comme j'étais salarié, quand t'es salarié, ben, c'est très difficile d'augmenter ton salaire, forcément. Et ben, dans ma vie privée, ben, il s'est passé plusieurs choses où j'ai eu besoin de gagner plus d'argent, et ça a été aussi une motivation de devenir indépendant. Donc, ça a été plusieurs choses, on va dire, c'était un peu un mélange. Mais le fil conducteur, ça a toujours été la passion, je dirais.
Ok. Et tu parlais de rage là. Elle te vient d'où cette rage? T'étais comment, enfant ou adolescent? T'étais quel type de garçon?
Alors moi, j'ai toujours été jusqu'on va dire jusqu'à ce que je finisse mon école de son au Japon, j'ai toujours été quelqu'un de très introverti, très timide. J'avais beaucoup de mal à parler en public, faire des trucs comme ça, tu vois, là où on discute et tout, raconter ma vie. Et bah, je sais pas, bah, à force, bah, ça s'est un peu. Je me suis un peu ouvert, en fait. Je me suis rendu compte que si je restais comme ça toute ma vie, ça n'allait pas marcher, parce que c'est les gens qui sont avenants, qui sont plus ouverts, qui arrivent à s'en sortir dans la vie, on va dire. À moins que t'es artiste, tu peux vraiment être dans ton monde, pas parler tout, mais dans la plupart des carrières professionnelles, il faut plutôt être ouvert et bon communicant. Et les gens qui étaient autour de moi étaient comme ça, et ça m'a mené à être plus comme ça, on va dire. Mais j'ai toujours été quelqu'un de très introverti, très timide. Et puis j'ai travaillé là-dessus pour essayer de changer, de pas rester un peu dans ma coquille.
Je vois très bien. Je pense qu'on est à peu près pareil de ce côté-là. Effectivement, moi aujourd'hui, là, je suis en train de faire un podcast avec toi, en train d'enregistrer un podcast un dimanche matin. Je me serais même pas vu faire ça il y a 4 ans, post-Covid, enfin pré-Covid, pardon. Enfin voilà, c'est assez incroyable. Et effectivement, c'est des soft skills qu'on apprend, qui sont nécessaires dans pas mal de métiers finalement. Et là, j'aimerais que tu me parles peut-être un peu plus, si ça te dérange pas, de vraiment plutôt là d'où tu viens. Est-ce que du coup, tu viens d'une famille aisée, d'une famille modeste? Est-ce que tu viens d'un environnement facile, difficile? En tout cas, comment toi tu le vis comme ça? Et pour pouvoir se dire aux gens, enfin, essayer de vraiment qu'ils comprennent très bien ton parcours, quoi.
Alors, moi, je viens d'une famille, on va dire, moyenne. Donc, ma mère était, parce qu'elle, ils sont tous, mes parents sont tous les deux à la retraite, donc ils ne travaillent plus. Ma mère était fonctionnaire au ministère des Finances, et mon père était un peu. Il a toujours été entre plusieurs sortes de boulot, on va dire. Mais il avait un truc qui était commun avec moi, c'est qu'il avait une passion, c'était la boxe. Donc il a toujours été à fond dans la boxe. Il avait un travail, on va dire, normal. Et en plus de ça, il avait une salle de boxe. Il a toujours à Noisy-le-Grand, où il entraînait des jeunes pour être champion de France, champion du monde, etc. Et moi, j'ai vécu dans ce monde-là. Donc, entre mon père, qui a toujours été à fond dans son truc, et ma mère, qui était plutôt, on va dire, à l'ancienne, qui travaillait, fonctionnaire, un truc posé, quoi. Donc, moi, j'ai pas eu de problème, on va dire, dans mon enfance. Je suis fils unique, j'ai pas de frères et sœurs. Donc, mes parents étaient plutôt bien avec moi. Par contre, moi j'ai toujours été très indépendant. Donc je suis parti très jeune de chez moi. Je suis arrivé au Japon, j'avais 21 ans. Donc c'est assez jeune, je pense. La plupart des jeunes maintenant, je pense qu'ils restent jusqu'à chez leurs parents, jusqu'à moins 24, 25, voire plus, parce que les études sont plus longues et tout. Moi, je suis parti à 21 ans. Je suis arrivé au Japon, je connaissais personne. J'ai habité tout seul très vite. Donc, j'étais très autonome, très indépendant, très, très jeune. Donc, voilà, quoi, c'est de là où d'où je viens, on va dire.
Ok, et toi aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, est-ce qu'il y a un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre si j'avais fait ça? Est-ce que tu imagines qu'il y aurait pu y avoir d'autres alternatives ou bien c'est le seul truc? Et après, j'aurais peut-être une autre question en rapport avec ça.
Au niveau de la carrière ou bien
Oui, au niveau de
en
la carrière,
général.
Ou alors, l'autre question que je pourrais te poser, peut-être inversement, disons que demain, allez, finalement, ça ne fonctionne pas, gros échec, je sais pas pourquoi, voilà, le truc marche plus. Demain, tu fais quoi? Tu persistes là-dedans ou tu rebondis ou tu as déjà d'autres projets en tête, etc., vu que tu as dit que tu n'abandonnerais jamais?
Alors moi j'ai jamais pensé vraiment à une alternative, donc peut-être ça aussi m'a poussé. J'ai jamais pensé à faire autre chose. Bon, quand j'étais plus jeune, comme je dis, j'ai fait littéraire, donc moi je m'intéressais plus à tout ce qui était écriture. Donc j'écrivais des petits romans, des petites nouvelles et tout. Je pensais plutôt me faire une carrière dans le cinéma, parce que j'adore le cinéma aussi. Je voulais plutôt être réalisateur et tout, mais après c'est vrai que ça me faisait un peu peur quand j'étais plus jeune parce que c'est un métier, c'est un peu, tu vois pas trop les débouchés professionnels, c'est très, vraiment un tout petit milieu. Et puis, je sais pas, j'ai bifurqué sur la musique, mais j'ai jamais vraiment pensé à faire autre chose en fait, si tu veux. J'y pense plutôt maintenant parce que bah, je suis plus très jeune, hein, là, il faut dire que bah, la plupart des ingé sont, la plupart vont travailler jusqu'à leur mort, hein, et la plupart, ceux qui sont très très vieux, genre, qui sont peu parmi nous, par exemple, il y a des mecs comme Al Schmitt, qui a bossé jusqu'à 80 ans. Mais moi, je ne me vois pas trop faire ça parce que c'est plus trop, je pense, on n'est plus trop dans ce monde-là. Donc, c'est pour ça que là, je suis en train de monter une boîte où je fais du management, j'essaye de développer d'autres ingé sons qui sont plus jeunes. Les coacher, essayer de créer des nouveaux talents, plutôt dans cet univers-là, on va dire, plutôt production, en continuant à faire mon truc. Parce que quand tu es indépendant, que tu vis que de ça, il y a des problèmes aussi qui sont liés ben, aux finances et tout, et puis c'est très risqué. Si demain, ben, je me casse la jambe ou je sais pas, il y a un problème de santé et que je peux pas bosser, bah il y a tout qui s'arrête. Et si tu bosses pas, ça s'arrête et y a plus rien, quoi, tu vois. Donc je pense aussi avec l'âge, l'expérience, je pense aussi à assurer un peu mes arrières. Donc c'est pour ça que je suis en train de développer tout ça pour que je sois pas uniquement dépendante que de ce que je fais. Parce que je sais que ça va pas durer éternellement non plus. Donc voilà, quoi.
Je comprends. Donc, transmettre le flambeau, passer le relais à la nouvelle génération et puis ben, partager ton expérience finalement. Ça fait combien de temps que tu
Voilà,
travailles
exactement.
d'ailleurs?
Ça fait 15 ans bientôt, hein.
15 ans déjà, oui.
Ouais.
Effectivement.
En tout.
Là, j'ai une dernière question pour toi. Quelle est ta vision de la France, toi qui vis pour le coup à l'étranger maintenant, qui est même bien installée puisque tu as fondé une famille, quelle est ta vision de la France, de la façon dont on travaille en France, de l'entrepreneuriat en France, vu de loin, vu d'où tu es?
Ouais. Alors, je vais pas être très positif là-dessus. Je pense que on est la France. Alors, je vais pas dire on parce que j'habite plus en France et je paye pas d'impôts en France. Je suis pas du tout installé en France. Donc, je veux dire que les Français, de manière générale, l'image que j'ai, parce que le truc qu'il faut expliquer, c'est que moi, j'ai jamais travaillé en France vraiment. J'avais des petits boulots comme ça en faisant mes études à côté. Mais j'ai jamais vraiment travaillé avec des Français, si tu veux. de manière vraiment qu'on essaie d'avancer. C'est venu beaucoup plus tard, après, quand j'ai eu des projets avec des Français et tout. Mais de manière générale, quand je vois un peu ce qui se passe à travers la télé ou par rapport à ce que mes amis qui sont encore là-bas me racontent, bah, j'ai l'impression que la France, c'est pas un pays où on aime travailler déjà. Les gens n'aiment pas travailler. Ils pensent à leurs vacances, ils pensent à leur congé payé, leur RTT, leur truc, machin, leurs droits. Et je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque, en fait, parce que pendant qu'ils sont en train d'essayer de conserver, c'est bien d'avoir des droits et tout, il y a plein de gens qui sont morts pour ça, après, pour encore sortir tout le truc, tu vois, mais on vit dans un monde de plus en plus compétitif. Donc, à côté, t'as les Chinois, t'as les Indiens, t'as les Japonais, les Coréens, eux, ils travaillent comme des malades. Et ce qui fait, c'est que quand tu as un pays comme par exemple la Chine, où tout le monde taffe et ils ont les crocs, ils sont là à taffer jusqu'à ce que quasiment mort s'en suive, et ben ça pousse le pays en avant, tu vois. Alors que quand tu as des gens qui sont, on va dire, entre guillemets, assistés, enfin, les clichés, tu vois, un peu, c'est assistés, qui râlent, qui sont toujours en train de faire grève et tout, ben, le pays n'avance pas. Donc, pendant que le pays n'avance pas, eh ben, ils prennent des retards sur les autres. Et au fur et à mesure, eh ben, la France va s'appauvrir. Je pense que c'est c'est pas très bien parti, quoi, quand on voit ce qui se passe. En plus, avec le Covid et tout, toute la dette et tout, c'est vraiment, ça fait peur. Moi, je vois comment la France est déclassée au fil du temps, comment la France est désindustrialisée au fil du temps. Quand tu vois le Covid, les mecs, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas ci, ils n'avaient pas ça. Il faut qu'on demande aux Américains, il faut qu'on demande aux Chinois, ah, on n'a plus ça, on n'a plus ci, on n'a plus d'usine. Ils vont faire comment, tu vois, dans 10 ans, quand les Chinois, ils seront encore un niveau au-dessus, quand les Américains seront un niveau au-dessus. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que les gens se réveillent, qu'ils arrêtent, qu'ils regardent un peu comment les autres travaillent. Serait-ce que, par exemple, même dans des pays de l'Ouest, hein, quand tu regardes les gens en Angleterre ou les gens aux États-Unis, ben les gens, ils travaillent beaucoup, tu vois, hein, il faut travailler. Je ne dis pas que tous les Français ne travaillent pas, hein, mais c'est vrai qu'il y a cette image, on ne bosse pas et tout, on fait grève et tout, ça, c'est partout dans le monde. Tu vas partout le monde, on va dire, c'est quoi l'image des Français qui travaillent, les Français qui font grève, ils ne travaillent pas, tu vois, c'est l'image qu'on a. Quand je dis que je bosse 40 heures, 50 heures par semaine, et t'es vraiment français et tout, ils se demandent, tu vois, t'es pas japonais. Donc voilà, c'est l'image qu'on a, que vous avez à l'étranger. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose, tu vois, donc voilà, c'est un peu l'image que j'ai de la France. C'est dommage parce qu'il y a plein d'innovations, de trucs, de projets qui sont faits en France. Il y a plein d'entrepreneurs intéressants qui sont français. Il y a plein d'inventions qui sont françaises. Et je vois que tout ce potentiel-là n'est pas exploité. En fait. Donc je comprends pas. Je ne sais pas si c'est un problème que le pays soit un peu plus libéral ou je sais pas.
Je te rejoins complètement là-dessus, effectivement. J'ai le même ressenti que toi. Je pense qu'on est un pays avec un énorme potentiel qui s'est beaucoup trop reposé sur ses acquis, qui ne voit pas, pas forcément au niveau individuel, parce que je pense que les individus, eux, finalement, ils sont dans un système dont ils profitent au maximum. Hein, c'est le fait d'être un être humain qui fait ça. On est tous de la même façon quand on sait qu'on peut profiter de quelque chose, on essaie d'en tirer le plus gros profit, mais voilà, ça les a, comme on dit en anglais, softened, adouci, enfin voilà, ils se rendent pas compte de la concurrence, comme tu dis, de la Chine, de l'Inde qui arrive, et c'est une vraie difficulté. Et par rapport à ce que tu disais de l'image des Français, moi c'est pareil, ça fait 20 ans que je travaille avec des étrangers des quatre coins du monde, même d'Europe, hein, ou de l'Amérique du Sud. qui sont pas pourtant tous réputés pour être les plus gros bosseurs du monde, hein, les Italiens, les Espagnols ou bien l'Amérique du Sud, mais pourtant, même chez eux, on a une mauvaise réputation, donc c'est dire. Et ce qui est pas forcément totalement vrai, parce que comme tu le dis, il y a des Français qui sont des vrais gros bosseurs. Enfin, tu regardes, moi, je regarde ce qui me choque, enfin, ce qui me frappe le plus, ce sont les indépendants, ceux qui sont, tu vois, qui font des boulots manuels, les électriciens, les plombiers, etc. Eux, c'est des gros taffeurs. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre ces métiers plus en avant parce que déjà on en manque, parce que ces gens-là, il y en a qui ont des mains, ils ont des doigts en or, ils savent faire des trucs formidables. Et il faudrait qu'on mise vachement là-dessus. Et du coup, avant qu'on se quitte, ma dernière question par rapport à toi, c'est qu'est-ce que tu dirais justement à tous ces jeunes Français qui doutent, qui voudraient se lancer dans des trucs comme toi, ingénieur du son au Japon, qui ont des rêves plein la tête, plein les yeux? Et qu'est-ce qui fait la différence, qui fait que toi aujourd'hui tu as réussi et que tu t'es accroché, etc., quoi?
Il faut y aller. Le mieux, c'est d'y aller quand on est jeune, de pas trop attendre. Je dirais, c'est le truc à faire. Si vous avez des projets, des idées en tête, il faut pas avoir peur. Il faut faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les réaliser. Après, en France, c'est vrai qu'on a un problème où on sanctionne les gens qui prennent des risques. C'est un peu comme ça aussi au Japon, d'ailleurs. Mais c'est pas comme aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, où on va à l'inverse glorifier les gens qui prennent des risques. Alors que dans tout ce qui est entrepreneuriat, dans la plupart des métiers, si tu prends pas de risques, ben, il ne se passe rien du tout en fait. Tu vas rester là où tu es. Et pire même, tu vas régresser. Donc il faut prendre des risques, même si ça fait peur. Mais au fil du temps, ça va payer. Il va y avoir des répercussions. Ça dépend après du boulot que tu fais. Hein. Si c'était plus un truc salarié, un truc plus posé, bon, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais si tu es indépendant, moins de plus entrepreneur, il faut prendre des risques, des gros risques même parfois. Donc il faut pas hésiter à y aller. Surtout que bon, on a des proverbes comme impossible n'est pas français, des trucs comme ça. Donc il faudrait les mettre en pratique. Il faut pas, vraiment pas, il faut vraiment pas hésiter. En plus, bon, même si on a une réputation un peu de playboy, de machin, de mec qui travaille pas, il faut dire que bon, l'image des Français en général dans le monde entier est assez bonne. Voilà, les gens ont quand même une image un peu fantasmée, on va dire, de la France, de Paris et tout, tout ce qui vient de Paris. Après, dans le sud, ils ne connaissent pas trop. Mais il faut jouer de ça, il faut l'utiliser, cette image un peu romantique et tout, voilà. C'est bien de l'utiliser en même temps voilà, de bosser, de s'adapter un peu à comment les autres font. Mais je pense que c'est très important d'aller à l'étranger aussi. Parce qu'il n'y a pas assez de Français qui vont à l'étranger, je pense. Je connais pas les chiffres exacts, tu vois, mais il faudrait qu'il y en ait plus. Les jeunes, ouais, n'hésitez pas à aller à même pas forcément très loin, tu vois, tu peux aller comme tu dis, en Europe. Dans d'autres pays ou en Afrique ou pas très loin, quoi. Tu peux aller pas très loin et faire plein de choses. Donc il faut pas hésiter à voyager. Et puis après, bon, si tu veux t'installer autre part, c'est bien. Ou si tu peux revenir en France, c'est encore mieux. Peut-être que s'il y avait plus de gens qui sortaient justement de la France, qui revenaient pour essayer de changer un peu les trucs, ben, peut-être que le pays serait différent. Peut-être que ça bougerait un peu plus. Je pense que les Chinois, ils vont tous. Dans les universités anglaises, américaines, ils vont tous là-bas. Ils étudient pas en Chine, hein, ils étudient à Oxford, à Cambridge, partout, quoi. Donc, ouais, n'hésitez pas à sortir.
Impossible n'est pas français, c'est un petit peu le mot de la fin. En tout cas, Grégory,
Ouais.
je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et puis, je te dis
De rien.
bonne continuation dans tous tes projets, etc. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut, salut!
Merci.